Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 4h30 à Paris et à Kinshasa, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette première édition africaine sur la Radio du Monde est largement consacrée ce matin à la République démocratique du Congo. Au surlendemain d'un entretien surprise entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Sur le terrain, des combats ont été signalés hier dans la ville de Walikale, dans le territoire du même nom, province du Nord Kivu, dans l'est toujours de la RDC. Combat qui touche une structure de MSF, Médecins Sans Frontières. Les dégâts, certes, ne sont que matériels, mais c'est déjà bien trop, déplore l'ONG. Deux présidents qui se parlent, comment, pourquoi et après. On décortique aussi dans ce journal le rôle du Qatar et les suites diplomatiques attendu dans les sous-régions. Nous sommes au Kenya dans ce journal où l'on se demande si les cartels de la drogue n'essayent pas de faire du pays plus qu'un simple lieu de transit. Un laboratoire de fabrication de méthamphétamine a été démantelé ces derniers mois. C'est le département d'État américain qui nous l'apprend. Large dose de foot ce matin avec les éliminatoires du mondial. Madagascar prend encore une très belle option pour la suite avec une franche victoire sur les fauves du Bazoubangui. La Centrafrique corrigée 4-1. Antananarivo encore et le déguerpissement attendu, annoncé pour aujourd'hui des vendeurs d'Analakel. Reportage dans quelques minutes. Les affrontements ont donc continué hier sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo entre le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés. Ils ont atteint hier la ville de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Cette ville est à 200 km environ à l'ouest de Goma. Les combats ont touché la base logistique de Médecins Sans Frontières dans la localité. Les équipes de l'ONG et les patients sont sains et saufs, mais les dégâts matériels sont importants. Le récit dans la voix d'Emmanuel Lampart, directeur pays de MSF.
Malgré un cessez-le-feu évoqué, ce soir, à partir de 17h, des combats ont éclaté, des tirs au niveau de Walikale Centre, qui ont fort malheureusement impacté notre base logistique. Pour le moment, l'hôpital a été épargné, n'est pas touché, et nos équipes sont sains et saufs. Bien entendu, ceci constitue une énième rappel du respect pour tout ce qui est infrastructure médicale, base et personnel des organisations humanitaires, médico-humanitaires.
Emmanuel Lampart, le directeur pays de Médecins Sans Frontières. Ces affrontements rappellent que la rencontre de la veille entre les présidents congolais et rwandais, aussi inattendue fut-elle, ne peut pas tout résoudre d'un claquement de doigts. Les deux chefs d'État ont certes réaffirmé leur engagement à parvenir à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, mais le processus va être long. De nombreuses initiatives ont vu le jour ces derniers mois déjà dans les sous-régions de l'Afrique de l'Est, l'EAC, et de l'Afrique australe, la SADC. Patient Ligodi, il faut maintenant qu'elle se donne une voie unique et le travail s'annonce déjà minutieux.
Beaucoup reste à construire. D'abord, la confiance entre Kinshasa et Kigali. Une confiance fragile que l'émir du Qatar tente de renforcer en maintenant un dialogue régulier entre les deux parties. Ensuite, il y a l'appui à la mise en œuvre de ce qu'on peut désormais appeler le processus de Dar es Salaam. Et pourquoi ces noms? Parce que c'est dans la capitale tanzanienne que le 8 février dernier, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont annoncé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Objectif, unifier les efforts régionaux pour pacifier l'Est de la RDC. Mais la fusion reste à formaliser. Et d'ici au 31 mars, le président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto, doivent se rencontrer pour entériner cette fusion. Ils doivent aussi échanger avec les trois facilitateurs désignés pour accélérer le dialogue politique. Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ex-président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien. Leur mission, faciliter les discussions entre Kinshasa et Kigali, mais aussi avec les groupes armés actifs dans l'Est congolais. Le 17 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC ont proposé une feuille de route qui donne 30 jours aux parties prenantes pour asseoir un véritable cessez-le-feu avec des engagements concrets et un mécanisme de suivi sur le terrain.
Et l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui encore reste de comprendre pourquoi et comment le Qatar a pu réussir ce coup de maître diplomatique. Là où la dernière entrevue, Félix Tshisekedi-Paul Kagame, remontait à février 2024, entretien glacial en marge d'un sommet de l'Union africaine. Comment donc l'émir Altani a-t-il pu les réunir dans une même pièce pendant plus d'une heure avec photos en prime sur les réseaux sociaux? Benjamin Auger est chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et il explique que Doha n'a en fait que de potentiels alliés à tirer de cette histoire.
Le Qatar n'a pas vraiment une politique africaine très déterminée, mais en revanche, il a une relation très très forte avec ces deux pays-là. Au Rwanda, le Qatar fera le plus gros investissement qu'ils aient jamais fait sur le continent africain avec le futur aéroport qui est financé par Qatar Airways à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Et il y a eu aussi énormément de visites au Congo, notamment dans les questions portuaires, aéroportuaires, pour voir un petit peu comment l'écosystème qatarien pouvait investir au Congo. Donc la relation en fait entre l'émir du Qatar et Félix Tshisekedi ou avec Paul Kagame est assez bonne. Félix Tshisekedi à plusieurs reprises a demandé l'aide du Qatar pour pouvoir essayer d'avancer dans la médiation avec le Rwanda. La problématique, c'était de déterminer si vraiment le Qatar était à équidistance des deux partenaires ou si le Qatar était plus proche du Rwanda que de la RDC. Ces derniers temps, on avait l'impression que la vision à Kinshasa, c'était que les Qatariens s'étaient trop rapprochés des Rwandais. Et puis finalement, vous voyez ce qui s'est passé. C'est finalement le Qatar qui a été le seul à pouvoir mettre à la même table les deux acteurs qui ont quand même beaucoup de choses à se dire en direct, mais qui n'y arrivent pas.
Benjamin Auger de l'Institut français des relations internationales, propos recueillis par François Mazet. Un mot encore de l'Est de la République démocratique du Congo pour vous signaler cette éruption du volcan Nyamulagira hier dans le nord de Goma. Il est entré en éruption dans l'après-midi d'hier. Selon des sources au sein de l'observatoire volcanologique de la ville, la coulée de lave se dirige vers le nord dans le parc national des Virunga. Les habitants de Goma ont tout de même pu voir dans la nuit une longue colonne de feu qui s'élevait dans le ciel nocturne. Mais l'observatoire volcanologique indique qu'aucun danger ne pèse sur la capitale du Nord Kivu. À Paris maintenant, dans le dossier judiciaire d'Agathe Abiarimana, la cour d'appel n'a pas pu étudier hier les requêtes du ministère public. Alors que l'ancienne première dame du Rwanda a jusqu'ici échappé aux poursuites dans l'enquête ouverte en 2007 sur son rôle suspecté dans le génocide des Tutsis en 94, le parquet national antiterroriste demande sa mise en examen pour entente établie en vue de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité. Il demande aussi l'élargissement de l'enquête au 1er mars 94. L'audience qui était prévue à huis clos hier n'a pas pu se tenir parce que les différents documents exigés par la cour d'appel n'ont pas été tous déposés. Une nouvelle audience se tiendra le 21 mai prochain. Il y a peu ou prou 15 000 kilomètres entre Nairobi et Mexico. Et tout porte pourtant à croire que les cartels de la drogue les franchissent aisément. On se plonge maintenant dans le dernier rapport sur la stratégie internationale du contrôle de stupéfiants. C'est le département d'État américain qui publie ce document et qui révèle que, au mois de septembre dernier, un laboratoire de production de méthamphétamine a été démantelé par la police kényane. Les Américains nous apprennent aussi qu'il appartenait à un cartel mexicain. Gaël Alex.
C'est la première opération mexicaine de grande échelle confirmée au Kenya, écrit le département d'État américain. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération s'était installé au fin fond de la forêt des collines de Namanga, à la frontière avec la Tanzanie. Sur renseignement américain, la police kényane a pu arrêter en octobre un membre du cartel alors qu'il tentait de rejoindre Mexico. D'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Kenya représente une plateforme mondiale du trafic de stupéfiants. L'héroïne d'Asie et la cocaïne d'Amérique latine y transitent à destination de l'Europe. Passer à la production représente donc une étape supplémentaire pour le pays. Le département d'État américain note le manque de volonté des autorités pour lutter contre ce trafic. Malgré des lois très strictes, le taux de poursuite et de condamnation reste très faible, écrit le rapport qui rappelle que le trafic de drogue reste un des principaux moteurs de la corruption au Kenya. Selon Martha Koum, la présidente de la Cour suprême kényane, en 2021 et 2022, plus de 520 000 affaires de trafic de drogue ont été jugées. Plus d'un tiers d'entre elles étaient en souffrance depuis près de 3 ans. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Nairobi, où il est 6h39, même heure à Antananarivo. On en vient à cette journée cruciale pour les vendeurs d'Analakel. C'est aujourd'hui que les marchands informels de l'avenue de l'Indépendance dans la capitale malgache doivent déguerpir de leur point de vente. Ils et elles vendent de tout sur ces trottoirs. On va du café aux montres en passant par les sodas ou encore les téléphones. Mais la nouvelle maire de la capitale dit vouloir sécuriser cette zone présentée comme une vitrine touristique nationale au grand désarroi de ses vendeurs, désarroi qui tend même vers la colère depuis le début de la semaine. Pauline Le Troquier est allée écouter leurs ressentiments.
Leurs voix vont peut-être disparaître du quotidien des Tananarivien. Ce n'est pas la première fois que les marchands de rue d'Analakel sont menacés d'expulsion. Consternation tout de même pour Tranquille, vendeur de montres. Lui, voyait en la nouvelle maire, tout juste élue, une alliée naturelle.
C'est une vraie trahison. Ici, on a tous voté pour la nouvelle maire car elle vient comme nous du monde du commerce.
Le sentiment est partagé au stand voisin par Rakout. Quand les autorités avancent un nécessaire retour à l'ordre et à la sécurité dans cette zone vitrine du pays, ce vendeur redoute l'effet inverse.
Si nous, marchands, nous nous retrouvons sans revenus du jour au lendemain, eh bien je crois que ça risque de favoriser les actes de banditisme.
Les précédents maires ont aussi développé des stratégies pour tenter de maîtriser la place du commerce informel dans les environs. Tous ont cédé aux résistances des marchands au bout de quelques semaines, tout au plus. À elle seule, cette avenue très fréquentée fait vivre des milliers de familles, comme celle de Vouloul Nirine, vendeuse de soda depuis 15 ans.
On a déjà essayé de nous faire partir. Mais on a toujours réussi à revenir. Cette fois-ci, il paraît qu'on veut nous reloger quelque part. Mais c'est ici que les affaires marchent le mieux. Et nous ne voulons vendre nulle part ailleurs qu'à Nalakel.
Des agents de police seront déployés tout au long de la journée ce jeudi pour encadrer l'opération d'évacuation et sanctionner tout mouvement de résistance. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Le foot et Madagascar encore d'ailleurs, c'est la trêve internationale qui continue. Très gros programme aujourd'hui pour les sélections africaines. 9 rencontres à suivre aujourd'hui. Elles comptent pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Notamment Comores, Mali ou encore Cap-Vert, Maurice. Vous trouvez tout cela sur africfoot.rfi.fr. Ainsi d'ailleurs qu'un très bel entretien avec l'international congolais Meshack Elia. On va parler, nous, de la 5e journée qui commençait dès hier, avec notamment cette victoire éclatante des Baréas sur la Centrafrique. 4-1. On jouait au Maroc, faute de stade homologué à Bangui. Et la Grande Île se retrouve en tête provisoire de son groupe I. Ils peuvent rêver du mondial, Mathias Reynal.
Tout avait pourtant mal commencé pour les Malgaches. Une tribune pleine de supporters centrafricains qui donnent de la voix. Et un but marqué dès l'entame par le défenseur des fauves, Hugo Gambor. Mais rapidement, Madagascar assoit sa domination. Les Baréas recollent logiquement au score 10 minutes plus tard, prennent l'avantage dans la foulée. Alfred, supporter malgache, est rassuré.
C'est un beau score, mais ce n'est pas encore suffisant. On espère 5-1, 6-1 comme ça, ce sera...
Au coup de sifflet final, c'est presque ça. 4-1 pour Madagascar. Fernando est extatique.
Ah, j'ai aimé ce match. C'est la première fois que je vois Madagascar jouer aussi bien comme ça. On joue comme le Barcelone.
Le sélectionneur, Corentin Martins, ne pouvait pas espérer mieux pour son premier match à la tête des Baréas.
Les joueurs ont réalisé un gros match. Un but contre nous, 10 minutes de jeu. Ils n'ont pas paniqué, ils sont restés calmes. On a fait un gros match sur le plan mental. Dans les jours qui viennent, on essaie de bien récupérer parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et être prêt pour lundi, ça sera un autre match, c'est sûr.
Madagascar a rendez-vous avec un grand d'Afrique, le Ghana. Mathias Reynal, Casablanca, RF.
Au titre des résultats, hier encore, l'exploit vient peut-être de l'Iswatini qui parvient à tenir en échec les Lions indomptables du Cameroun sur un triste 0-0, tandis que la Tunisie assure le service minimum sur le Libéria. Victoire 1-0. Nous sommes à Paris, enfin, et au Centre Pompidou, au cœur de la capitale, qui accueille depuis hier une exposition d'envergure intitulée sobrement « Paris noir ». Elle retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France. Des années 50 aux années 2000, elle met en lumière 150 créateurs et créatrices, pour la plupart méconnus, dont les œuvres n'ont souvent jamais été montrées en France. Des artistes venus du continent africain, mais aussi des Caraïbes ou encore d'Amérique du Nord. Isabelle Chenu.
Cette histoire n'a pratiquement jamais été racontée en France. Elle a toujours été négligée, c'est un angle mort de l'histoire de l'art, et aujourd'hui elle fait retour dans une narration, je dirais, plus équilibrée, qui n'invisibilise pas une catégorie d'artistes.
Florence Alexis défend depuis longtemps la création africaine et caribéenne à Paris. Elle a accompagné l'exposition Paris Noir. Sur 2000 mètres carrés, 300 œuvres se déploient pour combler une lacune, montrer les styles et la production d'artistes noirs venus depuis les années 50, étudiés, créés à Paris, pôle naturel d'attraction artistique et métropole coloniale. Ils sont originaires d'Afrique, des Caraïbes ou d'Amérique du Nord, en proie alors à la ségrégation raciale. L'exposition est construite comme un réseau permettant de mieux comprendre le travail de 150 d'entre eux. Eva Barois de Cavel est commissaire associée de l'exposition Paris Noir.
Qu'on arrête de considérer ces œuvres comme des détritus de la modernité, pour le dire très violemment, qui est quand même une chose qui continue à être entendue. Et j'espère vraiment que cette exposition, par son ampleur, sa richesse et sa beauté, va poser ça de façon irréversible.
Paris Noir sera une exposition de découverte pour les visiteurs et pour les professionnels de l'art. Elle a nécessité un travail d'enquête impressionnant qui a permis de reconstituer des parcours aussi divers que singuliers.
Isabelle Chenu, Paris Noir, circulations artistiques et lutte anticoloniale. C'est à voir au Centre Pompidou à Paris. Et cela jusqu'à la fin du mois de juin. Vous écoutez RFI, 3h45 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Et dans la suite du programme, on est à la Réunion où les stigmates de Garance sont encore bien visibles. On parle du cobalt dont les prix explosent depuis la suspension de l'export congolais. Reportage aussi à Abidjan où le carême plus le ramadan font les affaires des vendeurs et des vendeuses en tout genre. Ce sera le dossier Afrique Économie. Mais c'est une ultime étape au Cameroun que l'on vous propose d'abord, quatrième et dernier volet de nos reportages dans le sud-ouest anglophone. Avec le nord-ouest, c'est là que des avocats et des professeurs se sont mis à protester il y a bientôt 9 ans pour une meilleure prise en compte des spécificités anglophones de leur système. Des revendications que des groupes violents se réclamant de l'ambazonie ont transformées en une lutte armée contre le pouvoir de Yaoundé. Aujourd'hui, 2025, il n'y a plus vraiment de front militaire, il reste des poches d'insécurité, des zones où subsistent encore plusieurs formes de violence, notamment des enlèvements contre rançon, des civils capturés en espérant que leurs familles verseront de quoi les libérer. Amélie Tullet, envoyée spéciale de RFI, a pu rencontrer une de ses anciennes victimes.
Pour témoigner, elle choisit le prénom Asiko. Début mai 2020, Asiko a 27 ans quand elle est enlevée en pleine rue à Bamenda.
On est sorti déjeuner avec ma sœur aînée et vers 19h, à la sortie du restaurant, ils nous ont interceptés. Ils ont pris la voiture, ils nous ont emmenés, ils nous ont couvert la tête. Quand ils nous ont libéré le visage, on était dans la brousse. On n'avait aucun moyen d'identifier la route par où on était arrivé. Nous étions très loin dans la forêt, là où on entend juste le chant des oiseaux et comme un ruisseau. Il y avait une sorte de grange, c'est là qu'on a passé la nuit.
Une nuit d'angoisse commence alors pour Asiko et sa grande sœur.
C'était terrible, terrifiant. Ils pointent des armes sur vous, vous donnent des coups de pied, vous frappent. Vous voyez ces marques sur mes jambes, ce sont des cigarettes. Ma sœur avait des tresses. Vous savez ce que ça signifie pour une femme quand ils arrachent les cheveux malgré les cris? Il n'y a pas eu de viol, nous avons eu de la chance. Mais les gens qu'ils ont emmenés avant nous, nous avons compris qu'ils avaient été tués.
Ceux qui les ont enlevés leur prennent tout, argent, chaussures, cherchent contacts et photos de leur maison dans leur téléphone. Au petit matin, Asiko reconnaît un de ses ravisseurs.
Il a dit « J'ai fait une erreur ». Puis il a dit « Tu n'as pas changé, tu as la même voix ». J'étais surprise. Il m'a dit « On était dans le même lycée ». Tu ne me connais pas, mais je me souviens de toi parce que j'avais le béguin pour toi. Il me semblait familier, mais je ne me souvenais pas de son nom.
Une fois relâché contre plus de 2 millions de francs CFA, Asiko ne sait toujours pas quel groupe l'a enlevé. 5 ans après, elle se sent toujours fragilisée par cette expérience.
Il y a cette peur constante que quelque chose puisse arriver, que quelqu'un puisse surgir pour vous emmener. Quand on en parle, tout le monde est concerné, directement ou indirectement. Le calme que nous avons connu en grandissant est envolé. Être à Bamenda, c'est comme vivre dans une cage. Ici, à Boya, c'est plus une cage avec jardin. Mais à Bamenda, on est dans une vraie cage.
Asiko n'a jamais porté plainte. Aucun chiffre officiel n'évalue le nombre de kidnappings ces dernières années dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Amélie Tullet, de retour de Boya, RFI.
4 reportages dans cette région du sud-ouest anglophone du Cameroun que vous réécoutez sur RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio. Dans un peu plus d'une minute, le dossier Afrique Éco en Côte d'Ivoire.
RFI, toute l'actualité, Édouard Dupenoit.
Mais les grands titres d'abord de l'actualité internationale de ce 20 mars 2025, c'est Gaza de nouveau sous les bombes israéliennes cette nuit. Au moins 10 morts recensés à Khan Younes tout à l'heure, près de 500 depuis la reprise des bombardements israéliens dans la nuit de lundi à mardi. Dans une vidéo, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, adresse aux Gazaouis un dernier avertissement, je le cite, en exigeant qu'ils libèrent les otages et se débarrasse du Hamas. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont parlé au téléphone hier. Le président américain propose que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes, ce qui constituerait selon lui la meilleure protection et le meilleur soutien possible. Le chef d'État ukrainien s'est dit prêt, quant à lui, à suspendre les attaques sur les infrastructures civiles et énergétiques en Russie, après un engagement pris par Vladimir Poutine la veille d'épargner temporairement les sites énergétiques ukrainiens. Donald Trump encore, qui appelle de nouveau à une baisse de taux pour compenser l'effet de ces hausses des droits de douane. Après la décision de la Fed, la Banque centrale américaine, de laisser ses taux inchangés face au climat d'incertitude inhabituellement élevé, je la cite, « Faites ce qu'il faut », exige le président américain dans un message qu'il a posté sur son réseau Truth Social. Trois heures 50 en temps universel et à Abidjan, le dossier de l'économie africaine en Côte d'Ivoire donc, pour explorer un phénomène un peu paradoxal. Alors que les mois de carême et de ramadan se superposent cette année, et qu'ils sont des mois de privation, d'assaise, de sobriété pour les fidèles chrétiens et musulmans, la consommation a tendance à exploser. Que ça soit pour la rupture du jeûne le soir, ou bien parce qu'elle pousse à la générosité matérielle envers autrui, un bon nombre de commerçants savent que les semaines qui se jouent en ce moment sont cruciales pour leurs chiffres. Binta Diagne nous le donne à entendre dans ce reportage à Abidjan.
On se réveille très tôt matin, on commence à piler, laver l'haricot, faire tout propre.
Zeynab Nambré jongle entre trois marmites dans lesquelles cette femme d'âge mûr fait frire des beignets de gaou conçus à base de haricots. Chaque beignet coûte 25 francs CFA, quelques centimes d'euros. Ils sont très prisés pour la rupture du jeûne. Les clients les achètent en grande quantité et cette cuisinière double son chiffre d'affaires.
On peut vendre 25 000, mais pendant les ramadans comme ça, on peut vendre 60. C'est une période intéressante parce qu'on dit que c'est nous notre traite.
En fin de journée, à l'approche de l'iftar, la rupture du jeûne, plusieurs clients font la queue autour de ce commerce de rue. Il y a là de nombreux fidèles.
Ça, c'est 400, non ? Deuxième, là, tu fais 300.
Mamadou dépense sans compter par esprit de solidarité.
Même si vous êtes deux, vous achetez pour 4 ou pour 5, parce qu'au moment de la rupture, il peut y avoir quelqu'un qui est de passage. Moi, personnellement, je ne fais pas de comptabilité là-dessus, parce que c'est un mois de charité.
Là, on a un coffret avec à l'intérieur du parfum, on a un marque-page, un courant, on a de la décoration lumineuse, on a un tapis.
Aïché Ballo supervise la composition d'un panier à livrer à un particulier. Cette jeune femme a fondé la maison Nandi il y a 3 ans pour répondre à une demande croissante en période de jeûne. Comme plusieurs autres entrepreneurs, Aïché Ballo propose toutes sortes de coffrets via les réseaux sociaux. Une particularité, la demande des entreprises est de plus en plus forte.
Le client principal pour nous, c'est généralement donc les entreprises, parce que ils offrent beaucoup aux collaborateurs, aux employés, aux partenaires, pour leur dire merci ou pour conclure de nouveaux marchés.
Et vous pouvez avoir jusqu'à combien de commandes ?
Par entreprise, on peut aller de 100, 200, 300 coffrets.
En cette période de carême et de ramadan, la demande est particulièrement forte sur les marchés. Or, en Côte d'Ivoire, les prix de plusieurs denrées sont plafonnés. Alors les agents du ministère du Commerce redoublent de vigilance pour éviter les arnaques, comme l'explique le commandant Alexandre Kofi, qui dirige la brigade de contrôle rapide.
Certains opérateurs sont tentés de faire de la surenchère. Je prends l'exemple du paquet de sucre morceaux qui est fixé à 1000 francs. Ça, c'est le prix détaillant. Lorsque ce dernier a appelé à le vendre au-delà de 1000 francs, 1100 francs, 1200, voire plus, il est épinglé pour pratique des prix illicites.
Les contrevenants risquent de grosses amendes qui varient entre 100 000 francs CFA et 50 millions de francs CFA. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
À Abidjan, il est 3h53. Et une heure de plus à Kinshasa pour l'actualité des matières premières. On tente de comprendre le yo-yo des prix du cobalt. Ils sont remontés en flèche depuis que Kinshasa a suspendu pour 4 mois l'exportation de ce sous-produit du cuivre. Décision prise justement parce que les cours étaient très faibles et qu'ils ne remontaient pas. C'est vous qui nous en parlez ce matin, Julien Clémenceau. Il semble que la RDC soit en passe de réussir son pari.
Kinshasa a effectivement enrayé de manière radicale la chute du prix du cobalt. En moins de 3 ans, le minerai avait perdu les 3/4 de sa valeur. Mais depuis l'entrée en vigueur de la décision congolaise, fin février, son cours a déjà regagné plus de 60%. Ce n'est pas étonnant, la RDC fournit les 3/4 du cobalt vendu dans le monde. Et les stocks disponibles, notamment en Chine et en Malaisie, seront épuisés ou presque quand l'interdiction prendra fin. En revanche, pour les industriels, c'est la douche froide. Les fabricants de batteries ont commencé à répercuter la hausse sur leurs prix.
Mais alors, pourquoi le prix du cobalt avait-il décroché alors que la demande augmente ?
Effectivement, les industriels consomment de plus en plus de cobalt. en premier pour les batteries des véhicules électriques et des téléphones. Entre 2023 et 2024, ces usages ont augmenté d'environ 10% et la tendance devrait se poursuivre selon les analystes. Mais la production a dépassé la demande ces dernières années, notamment parce que le cobalt est extrait comme sous-produit du cuivre. Donc quand le chinois Simoc, leader du secteur, augmente sa production de cuivre en RDC, dont le cours est haut, il extrait mécaniquement plus de cobalt, poussant son prix un peu plus vers le bas.
Mais donc, la victoire de Kinshasa pourrait être très temporaire ?
C'est l'avis d'un expert interrogé qui parle même d'effondrement prévisible du prix dès la reprise des exportations. Si on en croit de récentes déclarations, Kinshasa pourrait essayer de limiter la chute en mettant en place des quotas et en s'entendant sur une politique commune avec l'Indonésie, le deuxième producteur mondial de cobalt. Ce que souligne notre expert également, c'est que la RDC a pris des risques en prononçant cette interdiction de manière totalement inattendue. D'abord, celui d'effrayer de futurs investisseurs, et puis celui de pousser les fabricants de batteries vers des solutions sans cobalt. Les batteries lithium-fer-phosphate sont moins performantes, mais surtout moins chères à produire. Un argument de poids pour les constructeurs de véhicules électriques.
Julien Clémenceau pour l'actualité des matières premières. Merci. L'actualité enfin dans les territoires français de l'océan Indien, juste avant le retour du journal. Nous sommes à La Réunion d'abord avec les confrères de La Première. La Réunion qui panse toujours ses plaies après le passage du cyclone Garance. Tessa Groman, bonjour.
Bonjour. 43 millions d'aides d'urgence ont été votées hier par la région Réunion pour les sinistrés du cyclone Garance. 16 millions seront versés aux agriculteurs. Dans le nord-ouest de l'île, depuis le passage du cyclone, les évacuations de l'eau sur la route du littoral sont bloquées par la boue. Une grosse flaque se forme régulièrement sur la chaussée. Des travaux sont en cours. Éric Boiteux est le directeur d'exploitation du Centre régional de gestion du trafic.
Au niveau de la ravine Grande Chaloupe, c'est beaucoup de roches. On a encore plus de 5000 mètres cubes à déblayer. L'ouvrage est complètement bouché. Ça voit qu'on en a déjà évacué à peu près autant, voire un peu plus. Et puis, de part et d'autre, dans toute la fosse, même presque jusqu'à la Possession, au moins jusqu'à Pointe-à-Malheur, on a des dizaines de milliers de mètres cubes de boue qui ont été charriés par la ravine Petite Chaloupe, mais également par les autres ravines. Et on a tous les exutoires pluviaux complètement bouchés par cette boue qui a même colmaté complètement les gabions. Donc on a plusieurs semaines de travail la nuit à dégager tous ces milliers de mètres cubes de boue.
Propos recueillis par Laurent Figon. Pas de classe hier pour les collégiens et lycéens de Saint-Louis dans le sud de la Réunion. Les fortes pluies tombées depuis plusieurs jours ont là aussi bloqué les routes qui mènent aux établissements scolaires. Au chapitre santé, la Réunion est le département le plus touché par le diabète. Les statistiques indiquent que 10% de la population est touchée par la maladie, mais les chiffres pourraient être plus élevés. C'est pourquoi le CHU de la Réunion lance une nouvelle enquête pour déterminer le nombre réel de malades. Priscilla Etève.
Environ 80 000 réunionnais sont traités pour le diabète, mais il y a aussi une forte proportion de malades qui s'ignorent faute de diagnostic. Cette enquête mettra donc l'accent sur le dépistage pour une prise en charge médicale adaptée. Pour la première fois, l'étude Prévadiab Réunion doit aussi permettre d'identifier les profils de prédiabète. Cette phase où le taux de sucre dans le sang est élevé sans atteindre le seuil du diabète. Mais sans agir et réagir face à cette première alerte, 70% de la population concernée deviendra diabétique dans les 10 prochaines années, selon les spécialistes. Pour réaliser cette enquête, l'INSEE a tiré au sort 4000 adultes de 18 à 75 ans. Au moins 1400 devront accepter de participer à l'expérience pour obtenir des résultats concluants.
À Sainte-Marie, un projet d'enfouissement des déchets pour les communes du nord et de l'est de la Réunion fait polémique. Pour avancer, le maire de Sainte-Marie propose de soumettre la question à un référendum d'initiative citoyenne. Mais dans la rue, ses administrés semblent tous partager le même avis.
Déjà, quand ils sèment le truc dans les champs de canne, là, c'est loin, l'odeur vient sous la nous. Hein. Et là aussi, nous, on aura des odeurs. Hein. Faut chercher, je sais pas moi, dans les grands espaces verts, dans toute qualité herbes dedans, là. Pourquoi on fait pas ça, là?
C'est sûr qu'il faut se débarrasser des déchets, mais en même temps, ailleurs, mais pas ici.
Mais dis, la meilleure solution, c'est que chacun traite ses déchets. Saint-Denis fait la sienne, Saint-Suzanne fait la sienne, Saint-Marie fait la sienne, point, voilà. Saint-Benoît fait la sienne, point.
Ah, c'est extrêmement mauvais, pour la santé, pour tout. S'il y a un référendum, moi, j'irai voter. Bien entendu, non, je suis contre.
Bonne journée.
Merci Tessa Groman, bonne journée à vous et à tous les confrères de La Première. C'est la fin de cette première édition africaine. Lorraine Nemoza à la réalisation, merci à elle. Pierre Pinto, rédacteur en chef de l'information cette semaine. Sébastien Duhamel revient pour l'actualité africaine à 4h30 en temps universel. Je passe un salut particulier ce matin à Oscar Kazadi. Vous nous écoutez, vous êtes 100% à l'écoute, nous dites-vous depuis Lubumbashi sur le 98 FM. Et en direct sur notre application RFI, vous nous avez écrit sur Afrique Matin. info@rfi.fr. On vous en remercie pour votre fidélité. On vous souhaite une très bonne journée. Dans 30 secondes, l'actualité internationale.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est l'histoire d'un voyage en solitaire et d'une confrontation à une page méconnue de l'histoire, le génocide des Hereros et des Nama par les colons allemands de Namibie. Piste raconte ce voyage et l'histoire personnelle de l'autrice franco-sénégalaise Penda Diouf au Théâtre du Nord.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.